said, I'm blind. Everything is so good when she's around. She says, I'm silly. She says, I'm blind. Everything is so good when she's around.
Les discrets présentent curieuse expression.
Ben, c'est comprendre à retardement, non?
Exactement, c'est ça.
Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le
comprend
presque.
Oui,
hein. On préfère quand on le comprend tout de suite.
Quand y a des astuces cabreuses ou des contrepétries, si vous voulez.
Ah, j'adore
alors
ça.
Alors là, ben, moi j'arrive. Bonne dernière, hein.
Ah
tout
bon,
le monde rigole, moi j'ai pas encore compris. Là.
Moi je suis la reine du contrepaix. Hein. Ah oui, ah, j'adore ça. Les contrepaîtrices, je trouve ça formidable. Je les aime.
Même graveleuse.
Oui,
je les aime.
Il y en a qui sont subtiles, mais là, même graveleuse, oui, j'aime beaucoup le contrepaix.
Vous les comprenez du premier coup ou...
Très souvent, oui, mais pas toutes. Hein. Il y en a une, entre autres, que j'ai jamais compris, que, bon, mon mari qui m'a dit ce que c'était, quand je lui ai dit, c'est « L'aspirant habite Javel ». Eh bien, allez-y, cherchez ça. J'ai cherché avec une de mes collègues au bureau, et on a tout essayé, on n'a jamais trouvé. Et je rentre le soir, je dis à mon mari, « Mais bon sang, on m'a dit, parce que lui, il adorait ça aussi. » On m'a dit une contrepétrie. Et alors, lui, il savait. Enfin, je ne vous dirai pas, parce que...
Mais je crois que les hommes sont plus doués pour les trouver que les femmes.
Oh, j'en sais rien. Moi, j'ai le bouquin des contrepétries de perso. Il y a de perso. Ah, bah, c'est mon mari.
Il faudra mettre sur le mini-journal.
Ah, bah non, parce qu'ici, ça ne plaît pas tellement.
Oh, oui,
moi, j'en ai mis. Moi,
hein.
J'ai mis deux fois et j'ai vu que ça ne plaisait pas.
Je les ai trouvées bien, moi.
Elles étaient bien.
Avez, comment
et c'était des vrais.
Comment pouvez-vous dire que
ah,
vous
bah,
avez
parce
vu que ça plaisait
que, parce que.
Vous avez eu des retours parce que, bon, moi, ce qui
j'ai pas eu vraiment de retours, mais j'ai.
Pourquoi croire toujours les on-dit.
J'ai pas eu vraiment de retours, mais j'ai compris quand même.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh,
my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
We can't.
We'll be right back.
Raise up your fist to break him down. radioactive. 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 La Touraine a trouvé sa radio.
Et maintenant, il est l'heure de retrouver Jean-Michel et ses invités pour une nouvelle chronique Addicto sur Radioactive. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Marlène. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Gilles Poulain et Dominique Yarnouf, tous deux membres du collectif d'alcoolologie d'Indre-et-Loire. Et Dominique, tu fais partie également de la santé de la famille. Alors aujourd'hui, vous êtes venus nous parler de la codépendance, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans l'entourage des personnes souffrant d'addiction. Je vais donc donner la parole à Gilles et Dominique pour lancer ce sujet. Dominique, tu peux nous donner ta définition de la codépendance ?
Oui, tout à fait, Jean-Michel. Le mot codépendance est un terme un peu ambigu, qui est parfois mal utilisé, voire mal compris. C'est en fait un trouble de la relation au sens large, bien sûr, vis-à-vis d'une personne qui présente des difficultés dans sa vie. Actuellement, ce terme de codépendance est surtout entendu comme un concept qui est souvent associé aux relations avec des personnes dépendantes à des substances psychoactives, comme l'alcool, bien sûr, par exemple. C'est bien sûr le sens de cette chronique. Le codépendant est en fait un individu s'étant laissé affecter par le comportement d'un autre et se faisant une véritable obsession de contrôler son comportement. Ceci explique qu'il est parfois difficile de définir avec précision la codépendance, car les manifestations sont souvent diverses et d'intensité variable selon les individus. Soulignons ici que le codépendant n'est pas, en principe, dépendant d'une substance.
Alors Gilles, une codépendance, ça commence comment ?
Eh bien, une codépendance touche dans l'entourage proche des sujets addicts qui pensent quelquefois qu'en donnant de l'amour, il sera le sauveur initial et exclusif du malade dépendant. Ces personnes, évidemment, sont pleines de bonne volonté, ignorant ce qu'est la maladie addiction. Elles font fausse route et, hélas, peuvent s'enfermer dans leur propre déni et dans celui du dépendant. En jetant un regard très souvent erroné sur la situation et en refusant le recours aux soins médicaux, ils ne font alors qu'envenimer une relation pouvant être, au fil du temps, toxique.
Tu parles d'entourage proche. Tu peux préciser un peu ?
Oui, bah évidemment, entourage proche. Concernant la dépendance à l'alcool, l'addiction qui est à l'alcool qui est la plus répandue, c'est bien évidemment au départ dans le milieu familial, le conjoint, la conjointe, les parents pour leurs enfants, quel que soit leur âge, même quand ils sont devenus adultes, les amis proches, mais aussi parce que les personnes addictes protègent leur milieu de travail, les collègues qui, souvent dans le doute, tardent à intervenir de peur d'importuner ou de se mêler de choses qui ne les regardent pas. Un cas particulier que l'on peut signaler, c'est celui des enfants dont un ou deux parents sont dépendants. Ces enfants, parfois assez jeunes, vont pouvoir devenir codépendants et être parentalisés, c'est-à-dire se positionner en adulte protecteur pour pouvoir répondre aux sollicitations ou aux besoins de leurs parents.
C'est donc en fait une sorte d'inversion des rôles ?
Tout à fait, Jean-Michel, et cette inversion peut les conduire à endosser des responsabilités qui correspondent ni à leur âge, ni à leur place, bien sûr, au sein de la famille. Vous imaginez bien que cette codépendance parentalisée n'est heureusement pas trop souvent le cas, mais déstabilise un peu le psychisme des enfants, les plus jeunes surtout, pouvant les conduire vers de futurs excès.
Alors, quels sont les cas les plus fréquents ?
Alors, les cas de codépendance les plus souvent retrouvés sont ceux entre conjoints, surtout avec l'alcool, ceux des parents, enfants, ados ou plus âgés pour l'alcool et les produits illicites. Mais on va d'abord évoquer la codépendance entre conjoints. Dans les cas les plus fréquents, un seul des deux est dépendant. Cette codépendance est souvent d'installation très progressive et va s'accompagner d'un phénomène de grande tolérance de l'un vis-à-vis de l'autre. Plus graduellement, le codépendant va essayer d'initier des actions raisonnées et curatives.
Gilles, tu dis le codépendant, mais je crois que c'est surtout la codépendante.
Oui, c'est vrai, tu as raison, ce sont le plus souvent les femmes qui sont codépendantes, conjointes ou mères, mais j'emploie le masculin pour parler du codépendant en parlant de l'homme au sens l'humain. Des initiatives du codépendant sont faciles à imaginer. Conseils, surveillance accrue, interdiction, et sont presque toujours la cause d'une recrudescence des tensions dans un couple ou dans la famille. Recrudescence qui n'arrange rien à la consommation des substances psychoactives et rien non plus à l'angoisse du codépendant qui, déçu, va augmenter encore ses efforts de vigilance pour essayer d'arriver à quelque chose de positif. Pour le malade addict, les reproches, les conflits engendrent des mensonges, des distorsions inévitables qui aggravent une situation qui devient de plus en plus ingérable. Lorsque le codépendant estime que sa situation n'est pas reconnue par le partenaire, par l'entourage, que ses efforts ne sont pas récompensés, il peut se voir comme une victime et avoir recours à un chantage, à la menace pour essayer de reprendre le contrôle et faire changer l'autre.
Rappelons que cette codépendance peut toucher autant les femmes que les hommes aujourd'hui. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Quand le conjoint prend ses expériences émotionnelles de son partenaire comme si elles étaient les siennes, certains parlent de codépendance exogène en regard de cette situation nouvelle et ingérable. La codépendance endogène pourrait être une codépendance initiée par une situation familiale vécue antérieurement, comme celle des enfants parentalisés.
Quels sont les risques quand le codépendant est littéralement envahi par la situation de l'autre ?
Alors, cette préoccupation excessive envers la personne dépendante se fait au détriment de ses propres besoins, de sa propre vie. Le dépendant, de peur d'être délaissé, peut essayer de séduire, de se rapprocher de son ou de sa partenaire en évoquant un avenir meilleur, avec des propositions utopiques et virtuelles. Je vais arrêter de consommer, on pourrait se marier, on pourrait avoir un enfant. Tout ceci pour gagner du temps, jouer la montre, comme on dit quelquefois, dans le sport. Le codépendant peut alors rentrer dans un processus appelé la contre-dépendance qui le fera vivre entre attirance et aversion. À terme, la séparation du couple est très fréquente.
Qu'en est-il de la codépendance parent-enfant ?
Remarquons déjà qu'elle ne concerne pas que les ados qui commencent à consommer des produits licites ou non, mais qu'elle peut se prolonger, voire s'initier, lorsque les enfants sont adultes et même, je dirais, des adultes âgés. On a dans nos associations respectives des enfants de 30 ou 35 ans qui sont encore sous la codépendance de leurs parents. Lorsque les consommations chez les jeunes commence à devenir abusive. Les parents, bien sûr, essaient logiquement de les faire réduire, voire de les interdire. Dans quelques cas, ces conseils sont vains et une addiction peut arriver malgré un encadrement encore plus serré. Cette situation, mal vécue évidemment par les parents, les culpabilise grandement. Comment et pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi chez nous ? Qu'avons-nous bien fait ? Qu'avons-nous mal fait ? Que n'avons-nous pas fait ? Ces premières réflexions vont être faites dans un contexte, j'appellerais très protecteur, pour essayer d'inverser une situation qui déjà leur échappe.
Que peut-il arriver alors ?
Ce surencadrement risque encore plus d'irriter l'enfant. Son mal-être va pouvoir amplifier la dérive addictive qu'il touche déjà. Les parents sont toujours protecteurs, bien sûr, et pensent souvent pouvoir réguler seuls cette situation, souvent cachée au niveau de l'entourage.
Caché parce que ça ne fait pas bien d'avoir un drogué dans la famille ?
Jean-Michel, tu as tout à fait raison, c'est l'évidence. Le comportement de l'enfant va lui attirer tous les mauvais qualificatifs du monde, des ennuis avec la police et la justice, ce qui ne va rien arranger et amener de nouvelles distensions enfant-parent. Les conflits, quelquefois physiques, pouvant faire évoquer une éventuelle mauvaise éducation.
Alors que faire ?
Se faire aider. En contactant une association, participer à des groupes de parole est certainement le moyen le plus efficace pour rentrer dans un processus de soins. Hélas, il existe peu de groupes de parole pour les codépendants, sinon malgré tout les groupes d'aide des familles à la non et à la tine. Faire comprendre aux parents que les addictions sont des maladies dont la survenue dépend de facteurs souvent extra-familiaux, vulnérabilité, contexte, produit. Il faut consulter un médecin traitant, même si c'est parfois difficile, et ou un centre d'addictologie où la situation pourrait être plus clairement et sereinement évoquée. Les prises en charge psychologiques et médicamenteuses pourront se montrer salutaires.
Gilles, ces situations sont toujours salutaires ?
Hélas, non, pas toujours. Il y a des cas où l'addiction reste plus forte et les tentatives de soins sont incertaines ou intermittentes. Les parents sont toujours bienveillants pour leur enfant, peuvent, malgré le temps qui passe, l'aider à vivre, notamment par un apport financier, encore surprotecteur. Apport qui pourra être investi, hélas, au grand désespoir des parents, dans des narcotiques ou des produits psychoactifs. Donc, peu à peu, les liens parents-enfants vont se distendre sur un fond de disputes, de reproches permanents. Dans les cas les plus sévères, pas trop fréquents, heureusement, les parents, n'en pouvant plus, à terme, vont abandonner leur enfant, qui est souvent arrivé à l'âge adulte. Cet abandon et cette séparation avec un conjoint et un enfant est un vrai déchirement, mais peut-être salutaire. C'est une décision qui doit être prise en tenant compte du stade de la maladie et de la personnalité du dépendant. Ne pouvant compter que sur elle-même, la personne addict se retrouve donc à la rue, peut rapidement toucher son fond et réagir positivement en prenant une décision de soins. Si la dépendance est trop forte, la capacité à prendre une initiative bénéfique à un instant T sera repoussée au profit d'une consommation indispensable que le malade sait bien délétère.
Et pour la codépendance entre adultes, notamment conjoints-conjointes, que peut-on faire ?
La prise en charge d'un codépendant peut être liée, bien sûr, à la réussite de celle du dépendant. Mais ce n'est probablement pas le cas le plus fréquent. En dehors des classiques traitements pharmacologiques, type anxiolytique, antidépresseur, un accompagnement psychologique est très souhaitable, voire même indispensable. Il peut bien évidemment se faire avec un psychothérapeute. Comme on l'a déjà souligné, il existe maintenant un certain nombre de groupes d'entraide réservés aux codépendants. Nos associations Santé de la Famille et Collectif d'Alcoologie d'Indre-et-Loire en organisent depuis longtemps.
Quels sont les intérêts ou les qualités de ces groupes ?
Alors, le travail de groupe et le travail en groupe permettent de retrouver l'estime de soi, sens qui a, au fil de temps, été oublié, perdu par le codépendant comme par le dépendant. Cela est propice à une reconstruction positive du moi, avec une libération de la parole et de trouver de la compréhension auprès de personnes qui ont subi les mêmes souffrances. La solitude et le sentiment de honte peuvent être ainsi rompus. Ces groupes permettent d'avoir des espaces et des lieux pour exister avec moins de contraintes et de trouver un nouveau sens à la vie, une nouvelle normalisation. La participation à de tels groupes nous semble essentielle dans l'amélioration psychologique du codépendant.
Et cela prend du temps ?
Je crois qu'il est impossible de répondre brièvement à cette question. C'est une démarche personnelle, souvent longue. Soulignons déjà qu'il n'existe pas un groupe d'entraide idéal, mais seulement des groupes correspondant le mieux à l'attente de la personne. La durée ne peut pas être fixée à l'avance. Elle dépend de la qualité et de l'efficacité du suivi. Elle ne doit pas, bien sûr, être imposée. C'est le codépendant qui décide de son calendrier. En fait, on revient là à tout ce qui est proposé par les groupes de parole pour les sujets dépendants.
Gilles, Dominique, je vous remercie d'avoir bien éclairé le problème de la codépendance, mais comment peut-on essayer de l'amoindrir ?
Ouh là là, c'est une bonne question dont la réponse n'est pas facile, car elle concerne bien sûr beaucoup de cas particuliers. Comme on l'a évoqué, lorsqu'on parle d'addiction, on se rapporte toujours, hélas toujours, aux consommateurs, aux produits consommés, à leurs difficultés existentielles, à leurs souffrances lors des sevrages, à leur obligation de consommer, aux différentes techniques de prise en charge, etc. Mais il faut reconnaître que les codépendants, comme nous les avons définis, passent souvent à la trappe, si vous me permettez l'expression. Ce sont pourtant des personnes qui souffrent également énormément de la dépendance de l'être cher. Ce ne sont bien sûr pas les mêmes souffrances, mais des épreuves psychologiques sévères, entrecoupées d'épisodes d'espoir et surtout de désespoir, insoutenables à terme qui paraissent insolubles. Des consultations médicales pourront limiter les épisodes d'anxiété, de dépression, de détresse morale. Les groupes d'entraide réservés aux codépendants sont animés par des anciens codépendants, illustrant leurs propos par leur expérience. Cela permet aux participants de ne pas se sentir seuls face à de nombreux problèmes communs et de pouvoir communiquer avec des personnes des détresses semblables aux leurs. Le fait de rappeler ou d'annoncer que les addictions ont un point de départ maladif permet souvent de rationaliser le comportement des addicts, de déculpabiliser l'entourage et ainsi de rassurer les codépendants sur leurs difficultés à gérer des situations insupportables.
Nous remercions Radioactive de nous permettre de parler de ces codépendants, car classiquement, lorsque sont abordés les problèmes des sujets addicts, ceux de l'entourage, également très importants, sont souvent laissés de côté, et même si les choses tendent doucement à s'arranger. Merci à Vincent qui est à la technique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur la page Facebook de Radioactive, fm.fr, et sur le site Santé de la Famille, ainsi que sur notre page Facebook. Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous. Merci.
La Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive.
Radioactive.
Bonjour et merci à tous d'être à l'écoute des programmes de Radioactive. On se retrouve pour un nouveau numéro du Mac d'Actu avec aujourd'hui un coup de projecteur sur le festival Culturissimo, un événement initié par les espaces culturels Leclerc et ce depuis 11 ans. Date officielle de lancement ce mercredi 17 avril 2024. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Balu de l'espace culturel Leclerc d'Amboise. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marlène, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Alors, rendre la culture accessible à tous et partout, c'est la démarche entreprise par les espaces culturels Leclerc depuis un petit peu plus de 10 ans au travers d'une initiative relayée dans plus de 70 villes de France, ce fameux festival Culturissimo. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, Sébastien ?
Tout à fait, Marlène. Donc, le festival Culturissimo, comme vous le disiez, existe depuis maintenant 10 ans. C'est donc la 11e édition au niveau national. C'est une première édition pour nous.
D'accord.
Sachant que le festival propose des rendez-vous culturels gratuits aux quatre coins de la France, essentiellement dans les petites et moyennes villes où sont implantés les espaces culturels. Et ce sont des événements essentiellement autour de la littérature.
Un mélange de styles, un petit peu. On parle de théâtre, de cinéma, de musique et de littérature. Et je crois savoir qu'il y a d'ailleurs, comme chaque année, un thème qui est des mots et des notes.
C'est ça, tout à fait.
Alors, quel est le programme de Culturissimo localement à Amboise ?
Alors, cette année, comme je disais, c'est donc une première édition pour nous et nous avons la chance d'accueillir M. Philippe Torreton, acteur de théâtre, de télé, de cinéma, sociétaire de la Comédie française et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, écrivain. Et il viendra donc nous offrir la lecture de son dernier roman qui est paru début avril, qui s'appelle « Un cœur outragé ». Et donc, il nous offrira cette lecture au Théâtre Beaumarchais le lundi 29 avril 2024 à 19h.
Alors, c'est quoi un petit peu le pitch de ce bouquin ?
Alors, sans trop vous spoiler, évidemment, ça raconte l'histoire d'un comédien, Albert Stéphan, qui, après des débuts prometteurs, voit sa carrière s'essouffler et tombe progressivement dans l'anonymat. Jusqu'à ce qu'il découvre Émile Ajar, le pseudo sous lequel Romain Gary a remporté son deuxième prix Goncourt. Et donc, il lui vient l'idée, comme lui, de se créer une nouvelle identité, avec l'aide de deux de ses amis, un producteur et un maquilleur d'effets spéciaux, et donc de se grimer pour se donner une nouvelle chance et ainsi se jouer de la grande famille du cinéma qu'il a petit à petit mise au placard.
On sent un petit esprit de vengeance hein, dans ce livre de Philippe Torreton. Alors, comme vous le disiez, célèbre comédien, acteur, écrivain, qui va proposer cette lecture. Ce sera le 29 avril, n'est-ce pas ?
Exactement, le 29 avril au Théâtre Beaumarchais d'Amboise. L'entrée est gratuite, c'est simplement des invitations à retirer à l'espace culturel du Leclerc d'Amboise.
On peut d'ores et déjà prendre contact avec le Leclerc d'Amboise ?
Tout à fait, oui. Nous avons déjà les souches, il y a ce qu'il faut, vous pouvez venir nombreux et surtout, oui, venez nombreux.
Alors ce livre, j'imagine qu'on peut se le procurer à l'espace culturel oui. Leclerc d'Amboise.
Oui, tout à fait, bien sûr, vous pouvez vous le procurer à l'espace culturel Leclerc, mais vous pourrez aussi vous le procurer le soir de la lecture au Théâtre d'Amboise, ainsi que les différents ouvrages de M. Torreton. Puisqu'il y aura ce qu'il faut. Et avec un peu de chance, peut-être vous le faire dédicacer.
C'est ça, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une lecture, mais aussi un échange, je crois, après la lecture, avec possibilité de dédicace.
Exactement. Une lecture, donc, je ne pense pas de l'œuvre complète, mais surtout, oui, un échange possible après avec l'auteur.
Très bien. Peut-être d'échanger, d'ailleurs, avec Philippe Torreton autour d'un petit cocktail offert par Leclerc.
Peut-être.
Comment ça se décide une programmation comme celle-là, puisque c'est la première édition, donc vous essuyez un petit peu les plâtres de cette organisation. Comment ça se décide? Est-ce que chaque centre culturel Leclerc a la main libre pour la construire? Est-ce qu'il y a des injonctions nationales? Comment ça se prépare?
Bah, j'ai envie de dire que depuis 10 ans, c'est quelque chose qui est relativement rodé. Et au final, il y a une société de production qui gère tout ça en amont au niveau national et qui nous propose un catalogue d'artistes disponibles.
Qu'on a pu feuilleter ensemble juste avant cette émission. Il y a Oxo Puccino, par exemple, qui l'année dernière est intervenu à Blois.
Exactement, il a fait lecture-concert.
Ce rendez-vous, selon vous, Sébastien, il s'adresse à un public déjà sensible à la littérature ou est-ce que ça peut être un moment de découverte aussi pour des amateurs?
Je pense, moi, que c'est un moment de découverte. De toute façon, la culture, elle est à découvrir, quoi qu'il arrive. Et donc, il ne prend aucun risque à venir découvrir un acteur qui va lire son texte. Texte qui plus est, me semble plutôt sympathique à écouter.
Philippe Torreton, d'ailleurs, que l'on retrouve actuellement à l'affiche de La Promesse Verte, aux côtés notamment d'Alexandra Lamy, un film que vous pouvez aller découvrir, entre autres, chez notre partenaire du CGR de Tours Centre, puisqu'il est toujours à l'affiche actuellement. Donc un Philippe Torreton, multifonction, couteau suisse, comédien, acteur, écrivain, qui présentera son dernier livre, Un cœur outragé, aux éditions Kalman-Lévy, et qui donnera à voir avec finesse les turpitudes et le règne des apparences constitutives de l'univers du cinéma, comme vous nous l'expliquer, Sébastien, il y a quelques instants.
Oui, et j'aimerais rebondir, vu que vous parlez de partenaires, je souhaitais remercier la mairie d'Amboise ainsi que le service culturel d'être partenaire de cet événement qui, je le répète, est gratuit.
Eh bien, merci Sébastien Balu d'être venu dans le studio de Radioactive pour présenter cet événement, le 11e Festival Culturissimo, un événement qui prône l'accès à la culture pour tous et partout, avec ce rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de littérature et de cinéma, avec Philippe Torreton, le 29 avril au Théâtre d'Amboise à 19h, pour une lecture publique, mais toutefois sur réservation, de son livre Un cœur outragé aux éditions Kalman-Lévy. Où est-ce qu'on peut se renseigner ?
Bien directement à l'accueil de l'espace culturel du Leclerc d'Amboise.
Très bien. Et si on veut pas se déplacer, site internet, page Facebook?
Page Facebook.
Ouais, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci, Marlène.
C'est la fin de ce mag. On se retrouve mercredi à 18h pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien à l'écoute de nos programmes sur le 93 et le 94.7 FM.
Radio Active.
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Vous êtes sur Radio Active et tout de suite, place à vos actualités locales. Pour commencer ce point info, le chantier de rénovation de la chapelle royale au château d'Amboise se termine. En effet, bien que sa réouverture au public ne soit prévue que pour début juin, les promeneurs peuvent, depuis ce week-end, à nouveau admirer la chapelle qui n'est plus recouverte par des échafaudages. Pour continuer, près de Blois, un grave accident s'est produit hier soir. Un jeune enfant est tombé du camping-car familial alors que celui-ci roulait sur l'autoroute A10. C'est après avoir échappé à la vigilance de ses parents qu'un jeune garçon de 4 ans aurait chuté d'une des fenêtres du véhicule. La jeune victime a été retrouvée grièvement blessée sur le bas-côté, puis emmenée d'urgence à l'hôpital pour enfants de Clocheville, à Tours. Une enquête s'est ouverte pour établir les circonstances précises du drame. À Tours, un prêtre retraité a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur des religieuses. Au total, ce sont 2 plaintes qui ont été émises à son encontre. L'une pour agression sexuelle et l'autre pour viol aggravé. Toutefois, l'ancien prêtre nie les faits, affirmant que ces relations étaient consenties. Et enfin, côté sport, l'équipe de Saint-Nazaire est désormais championne de France de volley-ball. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. En effet, après un premier match remporté par le Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, ce mercredi 24, le TVB, l'équipe de volleyball de Tours, a su remonter la pente en gagnant le deuxième match. Cependant, au cours du set décisif supposé départager les deux équipes pour le titre de champion de France, c'est Saint-Nazaire qui s'impose face à le Tourangeau et s'offre alors son premier titre de champion de France. C'est une défaite dure à avaler pour les anciens champions. C'est tout pour nos infos locales, je vous laisse avec vos aventuriers préférés, ces jeunes de la passerelle qui ont rejoint le festival Les Printemps de Bourges à vélo depuis Montlouis-sur-Loire.
Bourges à vélo,
let's go!
Salut
salut à tous. On est sur Bourges à vélo, on est J4 et du coup je laisse la parole à Alban et Cyprien qui vont nous raconter un petit peu cette journée à vélo. Comment ça s'est passé les gars?
Bah alors le matin on s'est réveillé et on est parti en vélo jusqu'à Bourges et on s'est arrêté à un endroit pour déjeuner. Nous avons pique-niqué des sandwichs au jambon.
La dernière ligne droite c'était vraiment fatigant et... Mais là, surtout, la plus grosse surprise de la journée, c'est le fait qu'il n'y avait pas le panneau de Bourges encore une fois.
C'est vrai ça. Alors pour nos chers auditeurs qui n'ont pas toutes les deux dernières années en tête, la première année, sur le canal du Berry, il y a un panneau avec écrit Bourges où on avait fait une super photo la première année. Et l'année dernière, il n'y était pas. Et même cette année, il n'y est toujours pas. Et ça a été remplacé par quoi, Mamenzo?
Par une poubelle.
Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette journée?
Ah bah que c'est fatigant, mais ça fait plaisir d'être enfin arrivé à destination.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Parce qu'on aime beaucoup le vélo, mais là, je pense qu'on est tous contents d'être arrivés. Je laisse la parole à Clémence, qui du coup va nous raconter les concerts d'hier soir.
On a commencé par écouter Olivia Ruiz. On n'était pas dans l'attente du W, mais on a quand même entendu et vu sur les grands écrans. C'était cool. Bon, c'est pas ma chanteuse préférée, mais ça va. Ensuite, on a eu Matt Mata. On s'est bien éclaté. On a sauté un peu dans tous les sens, tout ça. Et après, bah, il y avait Oshi. C'était plus calme, mais il y avait des chansons assez touchantes, dont une où elle rend hommage à son grand-père. Donc voilà, c'était cool.
Cyprien, je te voyais pas forcément d'accord sur Oshi, ça bougeait moins. Bah en fait, tu veux compléter?
Oui. Le début de Matmata, elle était endormant. La fin, elle bougeait énormément. Mais Oshi, certaines musiques quand même, elle était surprenante et rythmique.
Et il y a personne qui a parlé du dernier concert, le concert de Chaka Ponk. Comment c'était?
C'était trop bien.
Incroyable, vraiment. Avec tous les effets spéciaux et tout, les lumières et le son qui envoyaient du lourd.
C'est vrai qu'il y a une scénographie qui est très particulière et qui est assez impressionnante. On recommande vivement. Alban, tu veux rajouter des choses ou pas?
Chaka Ponk, la scénographie était vraiment super. C'est vraiment dommage par contre qu'on n'ait pas pu participer au pogo de fin.
T'aurais aimé toi participer au pogo de fin?
Ouais.
D'accord. Et tu penses que tu en serais ressorti indemne?
Non, mais c'est pas grave. Ça m'aurait fait un beau souvenir.
Je pense que tu pourras tenter ta chance quand tu seras un peu plus grand.
J'ai aimé le concert de Chaka Ponk parce que ça a bougé. J'ai vu le chanteur qui va dans la foule, là. Comment ça s'appelle?
Le chanteur qui se jette dans la foule?
Oui. J'ai aimé le camping, voilà.
Et le camping aussi, ça t'a
oui.
plu? Et c'est tout pour cette quatrième journée d'émission. On se donne rendez-vous pour la dernière où on sera dans le train et on pourra faire un débrief de toute cette semaine. À bientôt!
Bourges à vélo.
Let's go!
Et voilà, c'est la fin de ce point info. Je vous souhaite une bonne écoute de la suite des programmes. À demain.
Radioactive. Radioactive.
Toute la vie locale dans une radio.
Radioactive.
Vincent, elle est arrivée, Catherine?
Non, je crois pas.
Mais c'est que son émission va commencer.
T'as essayé de l'appeler?
Catherine! J'arrive! Je reviens d'un spectacle génial. Alors vas-y, raconte.
Non, je n'en parle que dans mon émission théâtrale, etc.
Et c'est quand, théâtrale, etc.?
C'est tous les vendredis à 18h15 et rediffusé le samedi à 9h.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
C'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute.
Pas simplement quand je me rase.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France!
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, ils s'en foutent, oui, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et putain, ça me coûte. Mademoiselle à gauche, rebelle progressiste, héritière putative de la classe ouvrière, d'idées de mouvement engagées hier, combative mais un brin optimiste. Voudriez vous prendre pour époux, monsieur le marché ici omniprésent, du jury fidélité sans jamais d'amant, le chérir au mépris d'un peuple fou de fou.
Quelque chose à manger ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant. Tu parles peut-être même d'amour. Ouais, mais tu parles tout le temps. Tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute. Tu te vautres, tu sais, c'est du pareil au même. Quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même. Tu parles trop.
Active.
Toute la vie locale dans une radio.
Ça doit être la 700 millième fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, et même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant, c'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée, même si l'on contemple plus que l'on agit, plus que l'on réussit, on essaie, on essaie. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Mais si à l'avenir on passe à côté, si on n'exige pas au moins aussi bien que ce qui vient de se passer, moi j'ai encore nos débuts en mémoire, nos espoirs, et je rougis pas de ce qu'on est devenu. 2 enfants plus tard, brain world. Chop
my cell phone down below. Ain't that just like me?
Radio, Radio Active.
J'épouse le vide, me rappelle la jeunesse.